Je dors, mais mon cœur veille. Endormi dans l'appartement de mon père, je rêve qu'il y a quelqu'un à la porte. C'est lui. Il a 3 ans, 4 peut-être. Il pleure, j'ignore pourquoi, je sais seulement qu'il est horriblement déçu. J'essaie de le distraire en lui montrant un album rempli de magnifiques illustrations aux couleurs bien plus vives que dans la réalité. Il y jette un regard mais continue de pleurer. Dans ses yeux, je vois que tout est déjà décidé. Alors je le soulève et le promène sur ma hanche. Ce n'est pas facile, mais c'est ainsi, parce qu'il est complètement bouleversé, ce minuscule père-enfant. Le loquet de la porte me réveille. Cela fait plus d'une semaine que je vis seul ici. Immobile dans mon lit, j'écoute le bruit de pas qui entrent et d'un sac que l'on pose lourdement par terre. Les pas s'éloignent en direction de la petite cuisine et j'entends le grincement du placard qui s'ouvre et se referme, le bruit de l'eau qui jaillit du robinet. Celui qui est là connaît les lieux, donc je ne vois pas qui ça peut être. De l'embrasure de la porte de la chambre, je vois le large dos de l'inconnu qui, penché en avant, emplit la moitié de la cuisine minuscule. L'homme avale un verre d'eau d'un trait, le remplit, le vide de nouveau, puis le remplit une troisième fois. Il rince ensuite le verre et le met à sécher à l'envers sur l'égouttoir à vaisselle. Sa chemise blanche est trempée de sueur. Il déboutonne ses manches et les roule à hauteur des coudes. Il s'asperge la figure d'eau, décroche le torchon à carreaux, se sèche d'un mouvement brusque, puis s'arrête pour presser le torchon sur ses yeux. De sa poche arrière, il tire un petit peigne, le passe dans ses cheveux et les remet en place. Lorsqu'il se retourne, ce n'est pas le visage que j'attendais, même si j'en attendais aucun. Celui-ci est vieux et d'une grande délicatesse, avec un long nez aux narines dilatées. Il a les paupières tombantes, mais des yeux étonnamment clairs et vifs. Il fait quelques pas pour rejoindre le séjour, jette son portefeuille sur la table et ce n'est qu'à ce moment-là que, en levant les yeux, il me voit qui le regarde depuis le seuil de la chambre. Mon père est mort. Cela fait 2 mois. L'hôpital de New York m'a remis ses vêtements, sa montre et le livre qu'il lisait, car il mangeait seul au restaurant. J'ai retourné ses poches à la recherche d'un mot qui me serait adressé, d'abord le pantalon, puis l'imperméable. N'ayant rien trouvé, j'ai lu le livre, qui traitait de théorie juridique et de Maïmonide. Je n'y ai pas saisi grand-chose. Je ne m'étais pas préparé à sa mort. Il ne m'y avait pas préparé. Ma mère est décédée quand j'avais 3 ans. Déjà confrontés à la mort, nous étions à notre façon convenus de ne plus nous en occuper. Et voilà que, sans prévenir, mon père avait rompu notre accord. Quelques jours après la Shiva, Corinne m'apporta les clés de l'appartement de Tel Aviv. Je ne savais pas qu'il y avait là quoi que ce fût appartenant à mon père. Pendant les 5 années précédant sa mort, il avait passé le semestre d'hiver à enseigner en Israël, dans la ville où il avait grandi. Mais j'avais toujours pensé qu'il logeait dans un appartement de fonction, ce genre d'endroit dépouillé, impersonnel, habituellement alloué aux universitaires invités, et qui possède à la fois tout et rien. Du sel dans le placard, mais pas d'huile d'olive. Un couteau, mais qui ne coupe pas. Il ne m'avait presque rien dit du lieu où il vivait entre janvier et mai. Sans toutefois en faire mystère. Je savais par exemple qu'il habitait en centre-ville et se rendait 3 fois par semaine au campus de Ramat Aviv, parce qu'il préférait la ville et que l'appartement n'était pas loin de la mer, qu'il aimait longer au petit matin. Lorsque nous nous entretenions au téléphone, ce qui nous arrivait souvent, et qu'il me parlait des concerts où il allait, des plats qu'il avait essayé de préparer et du livre qu'il écrivait, je ne me représentais jamais son cadre de vie à l'autre bout du fil. Et quand j'essayais de me remémorer ses conversations, rien ne me revenait au-delà du son de sa voix. Elle absorbait jusqu'au besoin d'imaginer. Et pourtant, Corinne était là, qui détenait les clés de l'appartement dont j'ignorais tout. C'est Corinne, l'exécuteur testamentaire de mon père, qui s'était occupé des obsèques. Je devais seulement être présente au moment de l'ensevelir, et jeter la première pelletée de terre. Le bruit sourd que fit celle-ci en touchant le cercueil de pin me coupa les jambes. Debout dans le cimetière, en robe trop chaude pour la température ambiante, je me rappelais l'unique fois où je l'avais vu ivre. Corinne et lui chantaient si fort que cela m'avait réveillé. Adgadia, Adgadia, un agneau, un agneau. Le chien vint et mordit le chat qui avait mangé l'agneau que mon père avait acheté pour 2 sous. Un jour, mon père m'avait dit que la Torah ne faisait pas mention de l'âme immortelle, que l'âme telle que nous la connaissons n'était apparue que dans le Talmud et qu'à l'instar de tous les progrès technologiques, elle facilitait la vie mais coupait les gens de quelque chose d'inné. Que disait-il en fait? Que l'invention de l'âme éloignait les hommes de la mort? Ou bien m'enjoignait-il de ne pas le voir comme une âme après sa mort? Corinne inscrivit l'adresse de l'appartement au dos de sa carte de visite et me dit que mon père souhaitait me le léguer. Plus tard, tandis que nous attendions l'ascenseur dans le couloir éclairé au néon, ayant peut-être le sentiment de ne m'avoir pas correctement transmis un certain message, Corinne ajouta: Il se disait que vous pourriez peut-être venir ici de temps à autre. Pourquoi? Pourquoi alors que pendant toutes ces années je ne lui avais jamais rendu visite ici et qu'il ne m'y avait jamais invité? J'avais des cousins dans le nord du pays avec lesquels je n'entretenais guère de contact. Leur mère, la sœur de mon père, ne lui ressemblait en rien. Mes cousins sont des gens durs, pragmatiques, inflexibles. Ils ont maintenant des enfants qu'ils laissent vagabonder librement dans la rue et jouer avec des objets tranchants et rouillés. Je les admire, mais ne sais comment leur parler. Depuis la mort de ma grand-mère, quand j'avais 10 ans, je n'y étais retourné qu'une fois. Et je n'avais plus aucune raison d'y aller. Comme si cela résultait d'une décision, mon père avait cessé de me parler en hébreu. Lui répondant en anglais depuis des années, c'est à peine si je l'avais remarqué. Mais plus tard, j'en vins à me dire que la langue dans laquelle il rêvait toujours était un combat qu'il avait perdu contre quelqu'un, pas moi. Aujourd'hui, quand l'inconnu présent dans l'appartement de mon père me parle, je réponds instinctivement en anglais. Je suis la fille d'Adam. Qui êtes-vous? Vous m'avez fait peur, dit-il en plaquant la main sur sa poitrine. Il s'affale sur le canapé et ses genoux s'ouvrent. Vous êtes un ami de mon père? Oui, répond-il en se frottant le cou sous le col ouvert de sa chemise. Les poils de son torse sont clairsemés et grisonnants. Il me fait signe de m'asseoir, comme si c'était moi qui étais apparu à l'improviste dans son séjour, et non le contraire. Les yeux brillants, il me jauge. J'aurais dû deviner, vous lui ressemblez, en plus joli. Vous ne m'avez pas dit votre nom. Boaz. Mon père ne m'avait jamais parlé d'un Boaz. Je suis un vieil ami, dit l'inconnu. Pourquoi avez-vous les clés? Il me permet d'utiliser l'appartement en son absence, de temps à autre, quand je suis en ville. Je dors dans la chambre du fond et je m'occupe de ce qu'il y a à faire. Le mois dernier, il y a eu une fuite à l'étage du dessus. Mon père est mort. Il se tait et je le sens qui m'observe. Je sais. Il se lève et, me tournant le dos, soulève sans effort le lourd sac à provisions qu'il a déposé plus tôt. Mais au lieu de s'en aller comme je m'y attends, et comme le ferait tout individu normal, il repart à la cuisine. Je vais faire à manger, dit-il sans se retourner. Si vous avez faim, ce sera prêt dans un quart d'heure. Depuis le séjour, je le regarde hacher les légumes, casser les œufs et fouiller dans le réfrigérateur, tout cela d'une main experte. Le voir faire comme chez lui m'agace. Mon père n'est plus et cet inconnu prétend profiter de son hospitalité. Mais je n'ai rien mangé de la journée. Asseyez-vous, m'ordonne-t-il en faisant glisser l'omelette du poêlon sur mon assiette. Docile, je prends place, exactement comme lorsque mon père m'appelait à table. Je mange vite sans paraître savourer les aliments, pour éviter de lui faire plaisir, alors que sa cuisine est très bonne, la meilleure que j'ai goûtée depuis longtemps. Mon père disait qu'il trouvait la nourriture meilleure quand je la mangeais, tout comme elle me paraissait meilleure quand c'était lui qui l'avait préparée. Je prends les dernières feuilles de salade dans mon assiette avec les doigts, et lorsque je lève la tête, je vois l'inconnu qui m'observe de ses pâles yeux verts. Vos cheveux, dit-il, vous les portez toujours aussi courts? Je lui jette un regard signifiant que je n'ai aucune envie que la conversation prenne un tour personnel. Il mange en silence pendant quelques minutes avant de faire une nouvelle tentative. Vous êtes étudiante? Je bois mon verre d'eau sans me donner la peine de le corriger. À travers le fond du verre, je vois l'image floue de sa bouche. Il me dit qu'il est ingénieur. Alors, vous avez les moyens de vous installer où bon vous semble quand vous venez en ville, lui dis-je. Il s'arrête de mâcher et sourit, laissant voir de petites dents grises, des dents d'enfant. Je travaille pour la municipalité, répond-il, citant le nom d'une ville dans le nord. De toute façon, ici c'est plus pratique. Qui que soit cet homme, la mort de mon père le laisse indifférent. Pourquoi y sacrifierait-il son confort? Décidant de lui ordonner de partir immédiatement, je repousse ma chaise et laisse tomber mon assiette dans l'évier, mais au lieu de cela, je lui annonce que je vais me promener. Bien, répond-il en continuant de mâcher avec lenteur, fourchette et couteau délicatement suspendus au-dessus de son assiette. Allez prendre l'air, je ferai la vaisselle. L'après-midi touche à sa fin, mais la chaleur n'est pas tombée. Malgré tout, une fois dehors, mon irritation se dissipe. Pendant le trajet en taxi depuis l'aéroport, j'avais été surprise de voir la laideur et l'aspect misérable de la ville, avec ses murs criblés de trous et les tiges métalliques rouillées sortant de poteaux en béton sur le toit des immeubles. Mais m'y voici déjà habituée. D'une certaine façon, elle me réconforte même. Cette paresseuse décrépitude, tout comme les arbres poussiéreux, la lumière jaune du soleil et le son de la langue de mon père. J'arrive bientôt au rivage. Je m'assois en tailleur sur la plage et choisis un petit coin de mer à regarder. Un tout petit coin qui change avec la lumière, le vent et une lointaine force sous-marine. Une fillette est assise au bord de l'eau et pousse des cris de joie chaque fois que les vagues viennent clapoter contre ses jambes, tandis que ses parents, installés sur des chaises en plastique, bavardent autour d'une thermos de café. Il est aisé de comprendre ce qui a ramené mon père ici. Il l'est moins de concevoir la raison pour laquelle il en est resté éloigné pendant 20 ans. À la mort de ma mère, il est parti avec moi et a obtenu un poste d'enseignant à New York. Je suis entré à l'école et nous avons de moins en moins évoqué l'absence de ma mère, ainsi que notre vie d'avant. Je suis devenu une autochtone, tandis que lui n'a jamais été qu'un étranger. Et maintenant que je suis ici, dans sa ville, je me demande pour la première fois pourquoi il a attendu si longtemps pour rentrer, alors que j'avais grandi et terminé mes études. En ouvrant la porte de cet appartement dont j'avais toujours ignoré l'existence, j'ai été bouleversé par ce que j'ai découvert. Les murs couverts de livres, les tapis délavés que mon père avait dû acheter au marché, ses disques d'opéra, les étagères garnies de babioles rapportées de ses voyages, les boîtes à thé et les plats colorés dans la vitrine, le piano droit délabré avec Bach, encore ouvert sur le pupitre, jusqu'à l'odeur des épices dans la cuisine. Le lieu appartenait à mon père, cela ne faisait aucun doute. Toutes les choses qu'il aimait étaient là. Mais c'est précisément cette exhaustivité qui me surprenait et me troublait. J'avais l'impression de regarder sa vie à l'envers. Son vrai chez lui, c'était cet appartement. Et celui dans lequel j'avais grandi n'était que l'endroit où il séjournait quand il n'était pas ici. Debout au milieu du séjour, j'ai éprouvé un douloureux sentiment de trahison. Si l'âme existait, même réfractée, où la sienne retournerait-elle? Lorsque je regagne la rue de mon père, la nuit tombe et je vois son appartement éclairé. Mon œil perçoit quelque chose de mouvant sur la corde à linge qui part de la fenêtre de la salle de bain. Des chemises, les miennes, se balancent dans la pénombre. Je suis le fil dans sa longueur et mes yeux tombent sur une paire de grosses mains qui épinglent soigneusement mes sous-vêtements. Je monte 4 à 4 les deux volets de marche, j'enfonce l'interrupteur du couloir d'un coup de poing, cherche fébrilement la bonne clé sur le trousseau et fais irruption dans la pièce. Je hurle. Qu'est-ce que vous faites? Je suffoque, mes oreilles bourdonnent. Qui vous a permis de fouiller dans mes affaires? L'ingénieur municipal est maintenant en maillot de corps blanc. La corbeille de vêtements mouillés repose en équilibre sur un tabouret à côté de lui. Elles étaient sur le lave-linge et j'ai taché ma chemise en faisant la cuisine. J'ai trouvé que ce serait du gaspillage de faire une lessive pour 3 fois rien. Il met une épingle à linge entre ses lèvres épaisses et retourne à la délicate opération qui consiste à accrocher mes vêtements et à faire coulisser la corde. Il a les épaules couvertes de ces taches qui apparaissent avec l'âge, mais ses bras sont gros et musclés. Il ne porte pas d'alliance. Écoutez, dis-je à voix basse, alors qu'il m'écoute déjà. J'ignore qui vous êtes, mais vous ne pouvez pas vous introduire comme ça chez les gens et vous immiscer dans leur vie privée. Il pose les vêtements et enlève l'épingle à linge de sa bouche. Me suis-je immiscé dans votre vie privée? Vous fouillez dans mes sous-vêtements. Et vous croyez qu'il m'intéresse? Le rouge me monte au visage. La culotte mauve qu'il tenait il y a un instant dans ses mains est vieille et enfantine, et son élastique est distendu. Ce n'est pas ce que je dis. Alors quoi? Vous ne voulez pas que je lave votre linge? Je ne le ferai plus. Il accroche la dernière chemise et s'éloigne de la fenêtre. Il y a de la crème glacée dans le congélateur. Je sors et rentrerai tard. Pas besoin de m'attendre, j'ai la clé. Au cas où vous n'aurez rien prévu ce soir, il y a un bon film à la télé à 9 h. Pourquoi est-ce que je regarde le film? Je mange la glace et regarde le film exactement comme il l'a suggéré. Le film n'est pas mal du tout, c'est vrai, mais je m'endors tout de même et quand je me réveille, le programme a changé. Il est minuit passé. Je porte la montre de mon père à mon oreille. Son tic-tac ne subsistera pas éternellement et bientôt le surplus de temps qu'il m'a laissé sera épuisé. Mais pour l'instant, elle continue à faire tic-tac. Quelque part, un chat crie, ou peut-être un bébé. Je me fais couler un bain et, allongé dans la baignoire, je remarque pour la première fois une tache d'eau sombre au plafond, là où le plâtre a commencé à s'écailler à cause d'une fuite. Avant d'aller me coucher, je frappe à la porte de la petite chambre du fond, même si je sais qu'il n'est pas là. Je l'aurais entendu arriver. J'actionne l'interrupteur. Le lit étroit est fait avec un soin militaire. L'homme me semble trop grand pour ce lit. Mon lit, me dis-je tout à coup, celui que mon père me destinait au cas où je serais venu le voir. Mais je n'étais jamais venu, et entre-temps, il avait prêté le petit lit à un inconnu. Au pied du lit, il y a une coiffeuse en bois, le seul autre meuble qui entre dans cette pièce. Ouvrant le tiroir du haut, je vois un nécessaire de rasage, une brosse à dents et des sous-vêtements de rechange. Les autres sont vides. Dans la chambre de mon père, je sors le petit album photo en cuir que j'ai trouvé dans le tiroir de sa table de nuit. Là où j'ai grandi, les seules photos que gardait mon père étaient des photos de moi, et maintenant, depuis que j'ai découvert le petit album la semaine passée, je ne peux m'arrêter de le regarder. La première page montre une image de lui en jeune homme, encore plus jeune que je ne le suis. Vêtu d'un short et de chaussures de marche, il se tient devant la paroi rocheuse d'un canyon. Incroyable comme le visage que je vois rappelle le mien. Nous nous sommes toujours ressemblés, mais cette ressemblance était atténuée par la différence d'âge. Ici, on comprend facilement comment cela se passe, comment, au fil du temps, se transmettent un nez, des oreilles légèrement décollées, un œil à peine plus petit que l'autre, comme pour se retenir de voir. Même nos attitudes sont proches, comme si nous étions nés l'un après l'autre pour occuper le même lieu. Il me faut un petit moment pour l'identifier sur la photo suivante. Il nage dans un trou d'eau sous une cascade en compagnie de quelques autres, la bouche ouverte, les yeux rieurs, l'obturateur enclenché juste à l'instant où il criait quelque chose à la personne derrière l'objectif. Sur le troisième cliché, il est accroupi sur un rocher, torse nu, une cigarette au creux de la main, une fille assise à côté de lui, jambes étendues. À présent, les traits familiers de son visage, qui est aussi le mien, commencent à me paraître encore plus étranges. Ce jeune homme détendu ressemble si peu à mon père, qui se montrait discipliné et rigide jusque dans la poursuite des plaisirs. Sur la dernière photo, il a les bras grands ouverts et il rit dans un désert qui se déploie à l'infini derrière lui. Elle me remplit de nostalgie comme si, moi aussi, je m'étais trouvé là il y a bien longtemps, comme si une partie de moi-même y demeurait encore, ou bien peut-être est-ce juste que je donnerais n'importe quoi pour l'y rencontrer aujourd'hui, pour me retrouver face à lui, une image identique du désert se déployant à l'infini derrière moi. Je m'endors sans m'en rendre compte. Quand je rouvre les yeux, une aube nébuleuse emplit la fenêtre et j'ai la sensation que quelque chose m'a réveillé. Dans le rêve que je viens de faire, une foule de gens déambulait à proximité d'un endroit censé être l'appartement de mon père, mais qui ressemblait davantage à la gare ferroviaire d'une petite ville. Je comprenais que mon père était en train de mourir dans le bureau du chef de gare, comme Tolstoï. Je me lève pour chercher un verre d'eau, et dans le couloir, je vois que la porte de la chambre d'amis est légèrement entrebâillée. Lorsque je l'ouvre en grand, une odeur lourde s'échappe de la pièce, celle d'un corps d'homme abandonné au sommeil. Je le vois, enfoncé sous les couvertures, les jambes jetées au bord du lit, les bras enserrant l'oreiller, la respiration régulière. Plongé dans le sommeil, complètement absorbé par lui, comme s'il n'avait plus d'autre responsabilité au monde que celle de dormir ainsi, de dormir du sommeil des morts. Je sens que je m'assoupis rien qu'à le regarder. J'ai l'impression que son sommeil m'a jeté un sort. Mes membres s'alourdissent et je n'ai qu'une envie, celle de m'écrouler de nouveau dans mon lit, de m'enfouir sous les couvertures et de m'abandonner à un long sommeil sans rêve. Je suis tellement épuisé que si le lit de la petite chambre n'avait pas été aussi étroit, je me serais glissé à côté de lui, me serais roulé en boule et aurais fermé les yeux. J'ai un mal fou à m'en aller et à remonter le couloir. Puis, une fois arrivé, je tombe dans mon lit. Quand je me réveille enfin, il est déjà midi et le soleil filtre entre les lattes des volets. Au sortir de mon long sommeil comateux, je me sens nerveuse et agitée. La porte de la petite chambre est fermée. Je me rends à pied jusqu'à la piscine située sur le toit du Dizengoff Center, un grand centre commercial où l'on trouve des boutiques de vêtements bon marché et un cinéma. Les femmes en maillot de bain avachi aux fesses vont et viennent sans but, et le vieux au bonnet doré est de nouveau là, occupé à faire sa flexion-extension dans le petit bain. S'il disparaît sous la surface et ne remonte pas, le maître nageur viendra le repêcher, mais une fois celui-ci rentré chez lui, il n'y a plus de surveillant. Un jour, le vieux disparaîtra sous la surface, chez lui ou dans la rue, comme c'est arrivé à mon père dans un restaurant. Ou peut-être n'est-ce pas du tout ainsi que se passent les choses. Peut-être les poids qui maintiennent la vie fixée au sol remontent-ils subitement. Je fais 30 longueurs puis regagne l'appartement. La porte de la chambre de l'inconnu est toujours fermée. Je me fais griller des toasts puis sors lire dans un café du coin où le serveur en jean moulant et à l'œil indolent me sourit tout en me pressant un jus d'orange. Je veux ensuite me promener au marché. Un homme essaie de me vendre un chapeau, mais je n'ai pas envie d'un chapeau. De quoi ai-je envie? Veut savoir le vendeur. Je descends à la plage et regarde les hommes velus jouer au jokari. Quand je rejoins l'appartement de mon père, c'est déjà la fin de l'après-midi. Sur le trottoir, les ombres s'éloignent de la mer et l'ingénieur municipal est dans la cuisine, occupé à faire cuire des poivrons farcis. Alors, seulement à cet instant, celui où je franchis la porte et le vois en train de regarder dans le four, me vient l'idée que c'est peut-être mon père qui a tout organisé. De même qu'il avait préparé son testament, donné les clés à Corinne et veillé à ce que son désir de me voir venir ici me soit communiqué, il avait peut-être pris la peine de demander à son vieil ami de veiller sur moi ou de me transmettre quelque chose, fût-ce discrètement, un message ou un signe de ce que je devais faire maintenant qu'il n'était plus là. « Vous voilà de retour !» dit l'homme en baissant le volume de la radio qui diffusait les informations. « Bien, le dîner est presque prêt. Vous aimez les cerises? L'épicier en avait aujourd'hui. » Je voudrais lui demander où il était la nuit dernière. Je voudrais savoir quel est ce courant qui m'a entraîné avec lui dans ce sommeil inexplicable. Mais comment formuler la question? Au lieu de cela, je mets la table en me demandant sur quelle chaise mon père s'asseyait. Je décide que ce devait être sur la plus proche du poêle, celle qui fait face à la fenêtre, celle où Boaz était assis hier. Cette fois, lorsque nous nous installons pour partager le repas qu'il a préparé, lui sur sa chaise et moi sur la mienne, je me fais un devoir d'être plus aimable. Quelque chose a changé, et il le sait. Ses yeux vifs, encore plus clairs que dans mon souvenir, me considèrent d'un air interrogateur, avec quelque chose d'autre, comme une sorte de patience résignée. J'aimerais qu'il parle, mais il continue de manger en silence. C'est à moi de parler. Alors je lui dis que je ne suis pas étudiante, mais que je travaille depuis 3 ans dans un cabinet d'architecture et que je ne m'y plais pas. Quand je me réveille le matin, dis-je, je redoute les heures devant l'ordinateur, les mouvements d'humeur de l'architecte et les réclamations de ses riches clients. Alors, pourquoi y restez-vous? Me demande-t-il en s'essuyant la bouche. Après dîner, il prend un bain et, de ma chambre, j'entends l'eau clapoter à chacun de ses mouvements de l'autre côté du mur. 20 minutes plus tard, il sort de la salle de bain, toujours habillé de la même façon, rasé de frais, ses cheveux mouillés soigneusement lissés en arrière. Je sors un moment, dit-il. L'appartement est à vous. Il se rend dans la petite chambre au bout du couloir avec, à la main, sa brosse à dents et sa serviette. Je sens l'odeur de sa lotion après rasage dans l'air humide qui s'échappe de la salle de bain. Quand il réapparaît, je lâche. Dans quel but êtes-vous venu ici? Ce n'est pas ainsi que je voulais lui poser la question et je le regrette aussitôt. Je voudrais qu'il sache que je comprends la nécessité que nous tenions tous les deux notre rôle dans la comédie que nous sommes en train de jouer en souvenir de mon père. Alors j'ajoute très vite. C'est juste pour veiller aux fuites? Pour voir quelqu'un, me répond-il. Et à en juger par la façon dont il dit cela, enfonçant les mains dans ses poches, je sens que c'est une femme. Pour la seconde fois, je suis surprise de ma réaction, de la déception que provoque en moi cette réponse. Ce n'est pas celle que j'attendais. Mais qu'attendais-je? Qu'ils me disent qu'ils venaient pour moi? Et je me surprends de nouveau quand, quelques instants après qu'il a franchi la porte d'entrée, je me glisse discrètement derrière lui et descends l'escalier en courant. Dans la rue, je le suis à une certaine distance. Il passe sous un mûrier, moi aussi. Il traverse la rue, moi aussi. Il s'arrête pour regarder un grand bâtiment en construction. Alors je m'arrête, moi aussi, pour regarder. Et il me semble que je pourrais continuer à faire ça longtemps, à prendre une vie en filature. Nous voici bientôt dans un quartier inconnu, plus délabré que les autres. On dirait que les terrasses ne tiennent que par quelques vis. Il s'arrête dans une boulangerie et en ressort avec, à la main, une petite boîte entourée d'une ficelle. Des gâteaux? Quel genre de gâteaux? Des biscuits? Les préférés de la femme. Ceux qu'elle s'attend désormais à recevoir chaque fois? Il regarde de l'autre côté de la rue et il me semble un instant que ses yeux rencontrent les miens. Mais son visage n'exprime rien et il reprend son chemin. Quelques rues plus loin, il entre dans un supermarché et cette fois j'attends derrière une voiture jusqu'au moment où je le vois ressortir avec un sac en plastique. Il fait maintenant nuit. L'inconnu, Boaz, si c'est ainsi qu'il s'appelle, avance toujours. Nous marchons presque 1 heure, mais ça m'est égal. J'ai toujours été une bonne marcheuse. Mon père disait que, même petite, je faisais de longues marches sans jamais me plaindre. Si ce n'était ma soif et le fait que je sois sorti en hâte sans prendre mon portefeuille, cela ne me gênerait pas de continuer ainsi toute la nuit. Mais j'ai vraiment besoin de boire et chaque fois que nous passons devant l'un de ces bacs de recyclage en treillis métallique, rempli des formes en négatif de tant de soif étanchée, j'y repense. Enfin, l'inconnu s'arrête devant un immeuble trapu en stuc. Le petit jardin de devant est envahi de mauvaises herbes et encombré à l'entrée par un gros taillis et un arbre d'aspect sauvage dont les feuilles sombres et luisantes masquent en partie la façade. Il s'immobilise pour regarder en l'air. Et à travers les feuilles, je vois que les fenêtres du premier étage sont éclairées. Il franchit la grille d'entrée, mais au lieu de pénétrer dans l'immeuble, il tourne dans l'allée latérale et 4 ou 5 chats faméliques se précipitent hors des broussailles pour lui passer entre les jambes en ronronnant pendant qu'il sort des boîtes de conserve du sac de supermarché. Il ôte les couvercles et pose les boîtes à terre. Les chats s'agglutinent autour de lui tandis que d'autres émergent des taillis. Il écarte d'un coup de pied les boîtes vides, les chats font un bond en arrière et se crispent. Il leur parle pour les apaiser et ils reviennent dévorer la nourriture. Je me tiens sous le réverbère sans plus m'inquiéter qu'il me voie. Mais s'il sait que je suis là, il n'en laisse rien paraître. Fourrant le sac plastique dans sa poche, il revient vers l'entrée de l'immeuble, marque un temps d'arrêt comme pour humer l'air du soir et regarde de nouveau les fenêtres éclairées à travers le feuillage. Les branches de l'arbre agitées par la brise frappent légèrement les vitres et lui, immobile, fait tâter les pièces de monnaie et les clés dans ses poches comme s'il essayait de prendre une décision qui pourrait le mener dans un sens ou dans l'autre. Puis, redressant les épaules, il remonte rapidement l'allée et disparaît dans la pénombre du vestibule. Un chat pousse un long miaulement. Quelque part, une télévision est allumée. Sinon, tout est calme. Un instant, je crois entendre les vagues, mais ce n'est que la brise qui se lève dans le feuillage. Je traverse la rue déserte, mais de là, il m'est encore plus difficile de voir à travers les fenêtres. Il est évident que je vais devoir grimper à l'arbre. Debout en bas du tronc, je cherche où poser les pieds et parviens à me hisser dans les branches. Des brindilles se prennent dans mon t-shirt et la résine qui suinte des tiges cassées me colle aux mains. À un moment, mon pied glisse et je manque de tomber. Mais j'arrive enfin assez haut et assez près pour pouvoir presque les toucher en tendant le bras. Une jeune femme et un enfant assis tranquillement à une table dans un rectangle de lumière. Elle a de longs cheveux tressés dans le dos, et lorsqu'elle lève la tête de son livre pour voir ce que l'enfant a dessiné, je distingue ses yeux clairs et l'idée me vient, sereine et précise, que quelque part, de quelque façon, quelqu'un a donné à Boaz la mauvaise clé et qu'elle est la fille sur laquelle il est venu veiller. Les jambes tremblant sous l'effort, j'agrippe le tronc de l'arbre et attends qu'elle entende la sonnette et le fasse entrer. Il en met du temps à arriver. À quelle répétition se livrent-ils derrière la porte? Ce sont donc seulement leurs portes à eux, les portes de ceux qu'ils aiment qui se ferment aux morts? Je perçois alors un bruit de pas sous moi et le vois qui se hâte en direction de la rue. Les petites branches s'accrochent à moi quand je redescends et me griffent le visage et les bras. Pour finir, je saute de l'arbre, atterris brutalement sur le sol et me mets à courir. Je distingue une silhouette qui tourne à l'angle, mais le temps que j'y arrive, il n'y a plus trace de lui, et la rue tranquille débouche sur une large avenue très animée. Des voitures passent à toute allure, un bus s'arrête en rugissant, et il me semble possible qu'il se trouve de l'autre côté du véhicule. Pourtant, quand celui-ci démarre, le trottoir est vide. Je regarde dans le seul endroit encore ouvert, une pharmacie de garde au coin de l'avenue, mais ne voit qu'une vieille femme appuyée sur sa canne parmi les boîtes et les flacons, qui attend patiemment qu'on la serve. Comment avait-il pu disparaître de cette façon? Me dis-je, furieuse contre lui et contre moi. Mais la vraie question est peut-être de savoir comment j'ai réussi à le suivre aussi longtemps. À Tel Aviv, on n'est jamais loin de la mer, et lorsque je trouve le chemin qui y mène et arrive à m'orienter, je m'aperçois que je suis plus près de l'appartement de mon père que je ne le pensais. Dans l'obscurité, la mer est différente, plus vaste, plus vivante, pourvue d'intelligence. En arrivant sur la jetée de pierre derrière la vieille discothèque aux volets clos, je vois des hommes postés à son extrémité qui jettent leurs lignes dans l'eau noire. Je les observe un moment, mais rien ne se produit. Je me demande alors si je ne devrais pas rentrer et attendre l'inconnu, mais je sens qu'il ne reviendra pas, ni ce soir, ni demain. Tout comme je sens qu'il se passera une décennie et que j'aurai des enfants à moi avant de me décider à changer la serrure. Le temps que j'arrive, il est plus de minuit. Je vais voir la chambre de l'inconnu. Elle est vide comme je m'y attendais, et le lit soigneusement fait. J'ai la tête lourde et une sensation d'épuisement m'envahit. Je me déshabille et laisse tomber mes vêtements un à un dans le couloir, sur le chemin de ma chambre, comme je le fais toujours quand je vis seul. Les volets sont fermés et j'avance précautionneusement dans l'obscurité totale avant de m'affaler sur les couvertures. Ce n'est qu'à ce moment-là, immobile, les yeux ouverts, que j'entends la respiration régulière de quelqu'un endormi dans le lit. Je pousse un hurlement, bat l'air de mes bras et mon poing s'enfonce dans quelque chose de mou et chaud. Je cherche la lampe de chevet à tâtons et quand l'ampoule s'allume, je vois l'inconnu en maillot de corps étalé, bouche entrouverte, abandonné au sommeil, exactement comme la dernière fois. Il n'a pas pu arriver longtemps avant moi et pourtant le voilà, si loin des rives de l'éveil que mon hurlement comme mon poing n'y ont rien fait. Le cœur battant, je ramasse mon t-shirt par terre et l'enfile par la tête. Je veux le réveiller d'une secousse et exiger de lui une explication pour tout cela, lui ordonner de sortir de mon lit, ou du lit de mon père, en tout cas d'un lit qui n'est pas le sien, car le sien se trouve au bout du couloir. Et encore. Mais à l'instant où je m'apprête à le saisir aux épaules, un froid intense s'abat sur moi. Soudain, j'ai peur de le troubler, comme s'il était somnambule depuis le début, comme si l'arracher à son sommeil risquait de rompre un équilibre, de provoquer l'arrêt de quelque chose ou son immobilité définitive. J'éteins la lampe, ferme la porte sans bruit derrière moi, rejoins la chambre d'amis au bout du couloir et grimpe dans le lit étroit. Longtemps, j'ai l'impression que le sommeil ne viendra pas, jusqu'au moment où j'ouvre les yeux et c'est le matin. J'entends couler un bain, mais ce n'est pas un bain. C'est le bruit de l'eau dans la tuyauterie de l'appartement du dessus. Peut-être une autre fuite va-t-elle se produire sans tarder, et alors l'inconnu devra se réveiller et s'en occuper. Je me lève et vais le chercher dans la chambre de mon père. La porte est ouverte, le lit vide et défait. En entrant dans le salon, je trébuche presque sur lui. Il est pelotonné sur le sol, les jambes à hauteur d'estomac, les mains entre les genoux, endormi comme un bébé. Très doucement, je le pousse du pied, mais il continue de dormir sereinement, à l'abri dans son profond sommeil. Combien de temps cela durera-t-il? Je me le demande. Bientôt l'hiver sera là, la mer s'assombrira et la pluie laissera des flaques dans l'asphalte défoncé. Mais tout en me disant cela, je sais, au fond de moi, que ça continuera très longtemps, que je m'habituerai à enjamber l'inconnu en me rendant à la cuisine parce que c'est ainsi que l'on vit, en enjambant inopinément ce genre de choses jusqu'au jour où elles cessent de nous accabler et où nous arrivons à les oublier totalement.